France Musique. Sous la couverture, Philippe Venturini, France Musique.
Bonjour, l'opéra art total donne autant à écouter qu'à voir. Il aime aussi se mettre en scène quand il prend possession des lieux qui l'accueillent aussi. Je vous propose un magnifique voyage autour du monde, voyage en quelques 300 pages et 130 opéras d'Aix-en-Provence à Zurich, en passant par le Brésil, la Corée, le Kazakhstan et Oman. C'est quelques-unes des plus belles maisons d'opéra, célèbres, inattendues, historiques ou ultramodernes, que je vous invite à découvrir ou redécouvrir avec pour guide Christophe Rizou, mon invité. Le tour du monde en 130 opéras de Christophe Rizou aux éditions Première Loge. Ce séjour est agréable, chante Platé alias Michel Sénéchal dans cet enregistrement. De 1956, il était accompagné par l'orchestre de la Société du Conservatoire, dirigé par Hans Rosbaud, Platé de Jean-Philippe Rameau. Bonjour Christophe Rizou.
Bonjour Philippe.
Vous êtes critique musical, président du site forumopéra.com et donc auteur de ce livre, ce guide de quelques 130 opéras. Question inévitable pour commencer. Comment est-ce que vous avez opéré cette sélection? Pourquoi 130 et non pas 110, 120 ou 150? Choix toujours difficile, j'imagine.
Oui, alors la première chose, c'est que vous vous en doutez, le choix était extrêmement difficile, ouais. Parce qu'en fait, si on avait voulu lister tous les opéras, on aurait atteint un chiffre qui n'aurait pas été décent et qui aurait entraîné un livre beaucoup trop lourd.
En plusieurs volumes peut-être.
Voilà, tout à fait. D'ailleurs, on a un temps envisagé plusieurs volumes. Ouais. Mais 130 tout simplement parce que le chiffre est rond et que le système décimal nous régit un peu notre façon d'aborder les choses. Ensuite, comment on a sélectionné ces 130 opéras parmi une liste beaucoup plus importante. Déjà, on a sélectionné les opéras qui représentaient des opéras, qui avaient une saison d'opéra, si petite soit-elle.
Il y a des théâtres d'opéra qui ne font plus rien ?
Oui, tout à fait, il y a des théâtres d'opéra alors un peu partout dans le monde. Je vais citer un exemple, par exemple Hanoï, il y a un théâtre magnifique qui est inspiré de Garnier, mais qui aujourd'hui ne présente plus de ce qu'on appelle de saison d'opéra. Et alors, je n'y suis pas régulièrement, mais j'imagine très rarement même des spectacles lyriques. Donc, la première condition, c'était que ces théâtres proposent une saison d'opéra ou un festival, bien sûr. Ensuite, comme le livre est en français, on a privilégié la francophonie au détriment peut-être de d'autres pays comme l'Allemagne ou l'Italie qui ont énormément d'opéras, et mais malheureusement on ne pouvait pas tous les citer, tous les décrire. Donc ça aussi, ça fait partie des critères de sélection. Un autre critère de sélection, c'est qu'on voulait aussi que tous les continents soient représentés, parce que, si incroyable que ça puisse paraître à certains, il y a des opéras dans le monde entier, sur tous les continents, que ce soit en Afrique, en Australie et bien évidemment en Asie.
En Amazonie, le fameux opéra.
Tout à fait, qui est mythique.
Oui, exactement. Oui. Le livre, j'ai commencé par Aix-en-Provence, 1956, ce Platier de Rameau, parce que votre livre s'ouvre par Aix-en-Provence, puisqu'il ces 130 opéras sont organisés par ordre alphabétique. Une question, Christophe Rizou, on se rend compte, puisque à côté de chaque maison d'opéra, il y a une très belle iconographie, une très belle mise en page. Il y a une petite fiche signalétique avec la date d'ouverture, les principales créations qui ont été données dans cet établissement. On se rend compte que finalement, depuis les années 2000, se construisent encore beaucoup de salles d'opéra. Je cite par exemple Cracovie, Copenhague, Pékin, Seattle, Toronto, Athènes. Pourquoi est-ce qu'on construit encore aujourd'hui, au XXIe siècle, des théâtres d'opéra ?
Alors, déjà, pour répondre à une première partie de votre question, ma volonté aussi à travers ce livre, c'était de montrer que l'opéra n'était pas un art désuet ou qui appartenait à autrefois, puisqu'aujourd'hui, comme vous le remarquez, on construit encore des opéras. J'ai noté d'ailleurs que dans mon livre, il y a 14 opéras qui datent du XXIe siècle, qui ont été inaugurés au XXIe siècle. Donc, ça fait presque 10%. C'est significatif. Pourquoi on construit des opéras aujourd'hui? Je pense qu'il y a plusieurs raisons. Déjà, il y a le prestige du mot opéra. C'est-à-dire qu'on voit des opéras fleurir un peu partout dans le monde, surtout dans ce qu'on appelle les pays émergents. Vous en avez, par exemple, à Dubaï. Vous en avez à Oman. Vous en avez beaucoup en Asie. Je crois qu'à Shanghai, il y en a plusieurs, me semble-t-il. On cite juste le principal, il y en a un qui va s'ouvrir en 2023. Donc, les opéras fleurissent partout. Pourquoi qu'on construit des opéras encore ? C'est souvent pour asseoir un prestige culturel. Un pays, à partir du moment où il devient un pays qui veut se prétendre civilisé, entre guillemets, bien sûr, qui veut asseoir sa puissance au niveau de sur l'échiquier mondial, eh ben, se dote d'un opéra, parce que c'est un instrument, c'est un signe extérieur de puissance culturelle.
Un geste politique également ?
Tout à fait, aussi, ça rentre dans le même cadre. Une ville aujourd'hui sans opéra, ça paraît un peu saugrenu. Enfin, je parle des grandes villes, bien évidemment, mais dans les villes modernes, ça peut paraître un peu saugrenu, oui.
Franz Josef Zeli, dans le rôle de Sarastro, le chœur du RIAS de Berlin, l'orchestre de chambre d'Europe, tout sous la direction de Yannick Nézet-Séguin, un extrait de la flûte enchantée de Mozart, un enregistrement réalisé parallèlement à des concerts donnés en juillet 2018 au festival de Baden-Baden. Christophe Rizou, il y a peut-être plusieurs façons de fonctionner des maisons d'opéra, celles qui fonctionnent tout le temps, celles qui fonctionnent exclusivement pendant des festivals. On pense évidemment à Bayreuth, mais ce n'est pas le seul. Il y a aussi Baden-Baden, qui a aussi une saison très concentrée.
Oui, je dirais presque qu'il y a autant de moyens de fonctionner que de maisons d'opéra, mais j'exagère un peu. En fait, on peut distinguer plusieurs grands types de fonctionnement. Il y a ce qu'on appelle les théâtres de répertoire, c'est-à-dire des théâtres qui lèvent le rideau tous les soirs, avec chaque soir un opéra différent. On trouve ça très souvent en Allemagne, par exemple.
Ou à Vienne.
Dans les pays germaniques, ou beaucoup aussi dans les pays de l'Est, hein. De l'Europe de l'Est. Il y a aussi, alors, à l'inverse, ce qu'on appelle les théâtres de stagione, c'est-à-dire que les théâtres qui fonctionnent vraiment de manière saisonnière, qui présentent une production et une seule pendant un court laps de temps, et puis qui après passent à une autre. Et puis, il y a des modes mixtes, bien évidemment. Ça serait un peu l'Opéra de Paris, hein, qui présente comme ça de nouvelles productions, mais qui les alterne avec des productions déjà présentées dans les saisons précédentes. Et bien sûr, et puis, il y a les festivals, qui eux fonctionnent sur une période donnée ou sur plusieurs période donnée, comme Baden-Baden. Et puis, peut-être dernière catégorie, ce qu'on trouve aujourd'hui dans certains opéras en province, par exemple, c'est des opéras ou plutôt des théâtres qui présentent des opéras, mais aussi des spectacles de théâtre, du spectacle vivant au sens large, et donc qui ne sont pas uniquement spécialisés sur tout ce qui est spectacle lyrique.
Mmh. Christophe Rizou, on a évoqué la raison pour laquelle une ville avait décidé de se doter donc d'un opéra. Est-ce qu'il y a à chaque fois un cahier des charges qui demande un geste architectural particulier quand on construit un opéra, nous disions à un micro fermé qu'on ne construisait pas un opéra comme une gare, peut-être qu'à l'Opéra Bastille on a un contre-exemple, mais en général, comment est-ce que ça se passe?
Ce qui est amusant de constater, en fait, c'est que ces opéras, alors là, je me projette avant le XXIe siècle, mais ça perdure aussi au XXIe siècle, sont construits un peu comme des temples, alors des temples d'art profane, et d'ailleurs on le retrouve dans l'architecture au XIXe siècle, hein, qui s'inspire des temples antiques, donc de manière à donner l'impression, je pense, au spectateur, quand il va à l'opéra, qu'il participe à une cérémonie profane, mais quand même à une cérémonie.
On pense à Bayreuth, bien sûr.
On pense à Bayreuth, mais pas que. On pense à tous ces temples, tous ces théâtres qui ont des colonnes, comme les temples grecs, et qui d'ailleurs qui sont dans ce style qu'on appelle néoclassique. Ce qu'on constate aussi, oui, comme je le disais, comme c'est un signe extérieur de puissance, bien évidemment, ce que je remarque, moi, au XXIe siècle, c'est qu'on soit on porte beaucoup d'attention à l'extérieur. On prend par exemple l'opéra de Pékin, quand on voit les photos, puis même quand on le voit en vrai, d'un point de vue architectural extérieur, c'est absolument impressionnant. C'est un œuf posé au milieu de l'eau. Alors, il y a tout un tas d'images, de métaphores pour le désigner, la méduse, etc. Mais il n'empêche que l'effet est vraiment remarquable. Après, quand on rentre à l'intérieur, finalement, on se dit que les architectes souvent sont moins inspirés et surtout qu'ils ont oublié une des leçons. Alors, c'est une des leçons de Garnier, mais qui est la leçon de l'opéra. L'opéra, c'est un grand spectacle, et le spectacle est parfois autant dans la salle que sur scène, et ça, Garnier l'avait bien compris, hein, qui a consacré dans son palais Garnier à Paris, qui a mis en scène, vraiment fait en sorte que l'arrivée des spectateurs soit un spectacle avec des escaliers d'où on peut voir les spectateurs monter comme ça dans leur tenue de soirée les marches, et très souvent les architectes contemporains l'oublient. Et finalement, quand on pénètre dans ces bâtiments modernes qui sont absolument impressionnant à voir comme ça, et ben on est un peu déçu parce que l'intérieur n'est pas au diapason de l'extérieur, et très souvent d'ailleurs ils oublient une composante essentielle qui est le foyer, qui est le foyer où on passe quand même un certain temps dans une représentation, puisque c'est là où on se retrouve à l'entracte et c'est là où on devrait aimer se retrouver, et c'est pas toujours le cas. Et je vais faire un peu de délation, par exemple à Bastille, le foyer qui est très bruyant, qui n'est pas vraiment un foyer, qui est plus un couloir, et ben quelque part l'architecte a raté son effet, n'a pas pris en compte cette dimension sociale de l'opéra.
Est-ce que ce n'est pas aussi parfois une volonté de l'architecte? Je pense à Jean Nouvel quand il a refait l'opéra de Lyon, et qu'il a entièrement recouvert de noir, de façon à ce que justement la salle ne mange pas le spectacle et que le regard des spectateurs soit focalisé strictement sur la scène et sur l'opéra.
Oui, tout à fait.
Sur l'œuvre qu'on entend.
Oui, tout à fait. Bien sûr, il y a un regard architectural, mais si on prend l'opéra de Lyon, il me semble qu'il reste un foyer, d'ailleurs, qui est le foyer 19e.
Oui, qui est très
et
beau,
ça, Jean Nouvel n'y a pas touché. Donc, quelque part, on a toutes les composantes nécessaires pour que le spectateur vive un moment privilégié dans la salle, mais aussi à l'entracte, dans les espaces publics.
The king is dead. The queen awaits her fate in prison.
Oh.
How can you be so cruel? You open old wounds. I can help her, believe me. You have entrusted your diamonds to your old friend, the Spanish ambassador, Count Almaviva, a character from my first two operas. He has a plan to save you.
Save me, save me.
Let me tell you about my other characters. Almaviva's wife, Rosina. For the last 20 years, her husband has resented her because... Remember Almaviva's young page, Cherubino. He and the Countess had a child. Leo! And he has fallen in love with Florestine. She is the Count's offspring by a nameless woman of high rank. Here is the problem. Almaviva has never forgiven his wife's infidelity, and so he refuses to give his consent for the marriage of his daughter and her son. Instead, he has promised his daughter to his best friend, a villain. Patrick Honoré Bichard. To complete the cast, Figaro...
Get on with it, Beaumarchais! I never could follow the last act of the Marriage of Figaro, and this is even worse!
Oh, Heavenly Father, hear my vow. On my life I promise to set free thy persecuted daughter, Maria Antoinette of France. And if it be thy will, O Lord, I shall sell these jewels to the English ambassador at the reception of the Turkish embassy.
Christopher Maltman dans le rôle de Beaumarchais, Christine Sigmundsson dans celui de Louis XVI et Patricia Racette dans celui de Marie-Antoinette, l'orchestre de l'Opéra de Los Angeles, sous la direction de James Conlon. C'était un extrait de The Ghosts of Versailles, Les Fantômes de Versailles, un opéra de John Corigliano composé et créé pour le Metropolitan Opera de New York, créé en 1991. Christophe Rizou, un enregistrement réalisé à Los Angeles avec, enfin, en tout cas, des forces de Los Angeles, mais pour illustrer un opéra créé à New York. La création n'est pas étrangère aux États-Unis, la création lyrique. On a l'impression, quand on pense notamment au Met, que c'est vraiment le grand répertoire qui fonctionne. C'est vrai que l'essentiel de la programmation s'organise sur le grand répertoire, mais la création n'y est pas totalement étrangère. Et dans le reste des États-Unis non plus, d'ailleurs.
Oui, tout à fait. Même quand on regarde au XXe siècle, puisque les salles aux États-Unis ont pour l'essentiel été construites au XXe siècle. S'il y en a eu construites au XIXe siècle, souvent elles ont été détruites ou brûlées, comme beaucoup d'opéras. Mais en fait, dès le début du XXe siècle, la création est présente aux États-Unis, puisque Puccini créera au moins deux de ses opéras, enfin La Fanciulla dell'Ouest et Il Trittico à New York.
Mmh. Et ce sont souvent des salles quand même de grande capacité. On n'a pas encore abordé la question de la capacité des salles. Il y a la plus petite, je crois, en Allemagne avec 100, enfin celle que vous avez répertoriée, 199, c'est ça?
Oui, à Bad Wildbad, oui. Hein, c'est un,
ça semble un charmant chalet
de poche, oui, tout à fait. Une Bad Wildbad qui est une station thermale, donc c'est le théâtre était à la mesure de cette petite station thermale qui est entrée sur l'échiquier international des opéras grâce à un festival consacré à Rossini. Rossini qui avait tout simplement passé quelques mois à Bad Wildbad, ou même pas quelques mois, quelques semaines à Bad Wildbad pour faire une cure. Ça a suffi plus d'un siècle après à donner naissance à un opéra, une très belle histoire. Ça c'est une chose, mais c'est vrai qu'aux États-Unis big is beautiful, comme on dit, et enfin comme ils disent, et donc les plus grands opéras aujourd'hui sont situés sur le continent américain. Je crois que le plus grand, alors si on accepte les arènes antiques d'Orange et de Vérone qui ont lieu des festivals, mais ne sont pas les seuls, il y a d'autres théâtres antiques qui servent de cadre à des grands festivals, mais donc si on accepte ces cas particuliers, New York a plus de 3000 places, je crois que c'est la plus grande.
Oui,
San Francisco est pas loin.
Vous mettez, oui, c'est ça. Chicago aussi, 3500. Voilà, sont vraiment des grandes jauges.
C'est les trois plus grands. Et Bastille arrive. Alors en Europe, après, je crois que c'est Bastille. Alors j'ai pas fait un classement, hein, mais Bastille arrive derrière. C'est le plus grand, mais Bastille, je crois qu'on est à 2008, quelque chose comme ça. Donc on est un cran en dessous.
Christophe Rizou, est-ce qu'il y a des constantes dans la construction des salles d'opéra, ou est-ce que la forme, le rapport au public a changé? On pense au théâtre à l'italienne, donc ce théâtre en forme de fer à cheval. Est-ce qu'avec le temps, la structure de la salle s'est modifiée de façon, je ne sais pas, peut-être à accueillir davantage de public ou à percevoir différemment le spectacle?
Oui, tout à fait. Bien évidemment, l'opéra, on le voit avec l'architecture extérieure, hein, d'ailleurs, mais à l'intérieur aussi, le format des salles s'est adapté à l'évolution de l'opéra en lui-même, du genre en lui-même, et puis à l'évolution de la société. Donc, typiquement, il y a beaucoup de théâtres à l'italienne qui, aujourd'hui, sont trop petits, ont une fosse d'orchestre trop petite pour accueillir des opéras contemporains, même des opéras wagnériens. C'est pour cela, par exemple, que Bordeaux, qui a un grand théâtre magnifique qui date du 18e, qui a été édifié par Victor Louis, éprouver le besoin de construire un auditorium pour pouvoir jouer des œuvres avec un format plus large, type les opéras de Wagner, justement. Donc ça, c'est une première raison d'évolution des salles. Il y a aussi le fait que ces théâtres à l'italienne, ils ont un charme fou et Dieu sait si on les aime, mais on voit pas très bien. Mais c'était pas forcément la préoccupation première des spectateurs. Ce qu'ils voulaient aussi, c'est se voir entre eux, et c'est ce que permet le théâtre à l'italienne, et faire salon quelque part, c'est ce que permettent ces loges. Donc la société évoluant, ce format-là de salle s'avère moins adapté même au XXe siècle et encore moins au XXIe siècle, où on privilégie le confort sonore, mais aussi le confort visuel. Vous prenez une salle comme Bastille où peut-être que le confort sonore n'est pas toujours là, mais visuellement, on est très loin, mais tout le monde voit la scène, ce qui n'est pas le cas dans les théâtres à l'italienne.
Più servo.
Maria Callas dans le rôle de Turandot, Eugenio Ferrandi, celui de Calaf. L'orchestre du théâtre de la Scala de Milan, dirigé par Tullio Serafine. Un extrait de Turandot de Puccini, bien évidemment, opéra qui a été créé à la Scala de Milan, comme vous nous le rappelez, Christophe Rizou, dans votre livre « Le tour du monde en 130 opéras ». Il y a aussi un côté pratique, je l'ai dit, il y a une fiche signalétique pour chacune des maisons, puis aussi un guide, un peu comme dans les guides gastronomiques, on sait à peu près quel va être le montant de l'addition, avec un nombre d'euros en face de chaque salle. Est-ce qu'il y a dans les nouveaux théâtres, Christophe Rizou, une constante? Est-ce que peut-être davantage un souci esthétique, écologique, d'installer peut-être un rapport nouveau avec le public, de façon à peut-être casser l'image, soi-disant élitiste, de l'opéra?
Ce qui est sûr, c'est qu'au niveau de l'architecture, la manière dont les architectes appréhendent la construction d'un opéra, maintenant ils prennent en compte des considérations environnementales, ce qui n'était pas forcément le cas, évidemment pas le cas autrefois, et ça semble important. C'est vrai aussi au niveau de la représentation d'opéra, on se préoccupe beaucoup plus d'écologie qu'on ne se préoccupait, mais il y a même de cela quelques dizaines d'années, et même moins. Ça, c'est une première chose. Après, sur la manière dont les architectes aujourd'hui envisagent les bâtiments d'opéra, comme je disais, c'est avant tout déjà un lieu que l'on voit de l'extérieur, et à l'intérieur, ce qu'ils visent avant, d'abord, c'est le confort du spectateur dans la salle. Je crois que c'est ça, ce sont les deux constantes un peu des opéras aujourd'hui.
Très bien, merci beaucoup Christophe Rizou. Je rappelle le titre de votre ouvrage qui vient de paraître aux éditions Première Loge, Le Tour du Monde en 130 opéras. Il y avait aujourd'hui à la réalisation Laurent Lefrançois, à la technique Emmanuel Morse-Duncan, attaché de production Annie Comier. La semaine prochaine, je serai en compagnie d'Hélène Cao et d'Arnaud Merlin pour la grande histoire illustrée de la musique. D'ici là, excellente journée et excellente semaine à l'écoute de France Musique.
À réécouter sur francemusique.fr.